RTL Info.
Et le journal de la mi-journée avec vous, Audrey Mondy, bonjour.
Bonjour. Poésie en arrosoir, c'était ce week-end et encore ce soir à Cernier. Une édition au goût un peu particulier, coronavirus oblige. Son directeur artistique Vincent Held fera le point sur cette édition en direct dans ce journal. Des militants pour le climat ont installé leur tente devant le palais fédéral tôt ce matin. Ils comptent bien y rester jusqu'à vendredi. Tadej Pogacar a remporté le Tour de France hier sur les Champs-Élysées. Le jeune Slovène est âgé de seulement 21 ans. Il a devancé son compatriote Primoz Roglic. Des averses vont progressivement se réactiver cet après-midi à partir des reliefs. Des orages ne sont pas exclus. La poésie a des avant-goûts d'automne cette année à Cernier. Le festival Poésie en arrosoir devait avoir lieu en juillet sur le site d'Evologia, mais le coronavirus l'a repoussé au tout dernier jour de l'été. La manifestation prend fin ce soir après 4 jours de spectacle. Et pour parler de cette 18e édition au parfum de moisson, de vendange et de colchic, le plaisir d'accueillir le directeur artistique de Poésie en arrosoir, Vincent Held. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Held, le festival est en quelque sorte un rescapé cette année en pleine crise du coronavirus.
On peut dire ça, en effet, parce que, ouais, on le sait, la plupart des festivals ont été annulés. La taille du festival Poésie en arrosoir, qui est pas une grosse machine, nous a sauvés quelque part.
J'imagine que vous avez dû mettre en place des mesures particulières pour respecter les normes sanitaires.
Oui, on est même allé au-delà des exigences légales quelque part, puisqu'on demande aux spectateurs de porter le masque pendant les représentations, on assure aussi la traçabilité, et puis on a mis en place des jauges réduites dans les salles, donc un petit peu moins de monde, et pour garantir l'espace entre les gens.
D'habitude, le festival s'étale sur 10 jours. Cette année, il vit seulement le temps d'un week-end prolongé. Ça vous laisse un goût amer ?
Non, vraiment pas. Bah déjà, le fait qu'il ait lieu, il n'y a aucune amertume. Au contraire, c'est plutôt un goût savoureux et mielleux, quoi.
Et présenter ces spectacles quasiment en automne plutôt qu'en plein mois de juillet, qu'est-ce que ça change ?
Ben, j'avoue que ça change pas grand-chose, parce qu'il a fait tellement doux ces derniers jours sur la terrasse qu'on était en plein été. On est encore en été pour quelques jours là. On était vraiment à la limite de l'été. Mais non, le climat, il était avec nous. Ben, il pleut un peu aujourd'hui, mais sinon c'est vraiment très agréable. Et les gens étaient là avec le même plaisir, avec le même sourire, même si des fois avec le masque, on ne les voit pas. Mais voilà, le plaisir d'être ensemble et de revivre un événement culturel.
Et même sur ces 4 jours, vous avez une programmation riche. Parmi les spectacles que vous avez proposés cette saison, vous avez un coup de cœur ?
Oui, il y a un coup de cœur. Et par chance, il a encore programmé, puisqu'il est ce soir. C'est Yaros, c'est le trio Zéphyr. On va finir en beauté avec ce groupe-là. C'est du rock, c'est des cordes, enfin c'est vraiment le spectacle total, la poésie magnifique, des voix magnifiques, des instruments. C'est vraiment, je crois qu'il faudrait pas sortir de ce week-end du jeûne avec des regrets. Donc il faut y aller.
Vous avez aussi, sauf erreur, composé un spectacle avec vos propres textes cette année, ceux qui étaient dans votre bibliothèque, disons.
Oui, c'est ça. Oui, c'est j'ai pas la prétention d'avoir écrit tous ces poèmes-là, mais en effet, alors c'est le spectacle À votre guise qui est aussi à voir aujourd'hui à 16h. Donc en effet, j'ai puisé des bouquins dans ma bibliothèque et puis je les interprète sur scène, accompagné par Olivier Forel. Donc chaque soir, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle première. Je ne sais pas ce que je vais lire, Olivier ne sait pas ce qu'il va jouer, mais c'est un vrai bonheur. En tout cas, les gens qui viennent nous voir adorent ça parce que ils découvrent avec nous les poèmes et ils les entendent aussi. Enfin voilà, c'est un grand moment de partage.
L'avenir de certains festivals à l'heure actuelle est un peu incertain. On imagine que votre regard va bientôt se tourner vers la prochaine édition. Vous êtes dans quel état d'esprit ?
Ben, je reste positif, comme je l'ai été au moment où il a fallu reporter le festival. Je reste aussi positif avec l'idée que justement la taille du festival va assurer sa survie quelque part. Puisqu'on n'est pas trop gros, les gens peuvent être assis, on adaptera en fonction des mesures qu'on devra prendre l'été prochain, la taille des salles, etc. On fera peut-être plus de choses en extérieur, mais enfin, on a les moyens avec ce festival-là d'assurer un maximum de sécurité, donc je ne suis pas trop inquiet.
Encore un petit mot sur ce soir, il y a encore des spectacles clos au programme, vous l'avez dit, il y a encore des places qui sont disponibles.
Il y a des places pour les 3 spectacles, donc À votre guise à 16h, Malva chante Neruda, donc les les poèmes d'amour de Pablo Neruda à 18h. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, Yaros et le trio Zéphyr à 20h30 à la Grange au concert. Donc, il y a des places pour tout.
Merci beaucoup Vincent Eldon. On rappelle que vous êtes le directeur artistique de Poésie en Arrosoir. Très belle journée à vous.
Merci Parimant.
Une édition particulière aussi pour le festival Courge Métrage. La traditionnelle soirée de projection s'est tenue samedi en ligne à cause du coronavirus. Elle a réuni plus de 1300 personnes. 25 courts-métrages étaient en lice. Le jury a attribué la Courge d'or pour le meilleur film au réalisateur Jerry DeYoung pour Inventaire. Le coronavirus circule désormais activement dans les territoires frontaliers, le territoire de Belfort, mais surtout celui du Doubs qui touche directement le canton de Neuchâtel, ont été classés hier en zone rouge. C'est une décision de leurs préfectures respectives. La Confédération a placé il y a 10 jours 9 régions françaises sur sa liste rouge, mais aucune zone frontalière n'était alors concernée. Le point sur la situation actuelle avec Jérémy Pignard.
Pas de changement pour les frontaliers qui viennent travailler chaque jour en Suisse, pas d'interdiction particulière non plus pour les Neuchâtelois qui ont des habitudes en France voisine. Seule précaution, bien se renseigner avant d'aller dans le Doubs ou à Belfort sur les règles sanitaires en vigueur au niveau local. Depuis aujourd'hui, par exemple, le port du masque est obligatoire dans toute la ville de Belfort. C'était déjà le cas pour les centres-villes de Montbéliard et Besançon dans le Doubs. Mais tout cela ne signifie pas que ces zones sont considérées comme rouges aux yeux de la Suisse. Pourquoi ? Avant tout pour une raison de critères. En France, le seuil d'alerte qui provoque un classement en zone rouge, c'est 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Doubs et territoire de Belfort sont actuellement à 56, mais la Confédération a, elle, fixé le seuil à 60 cas pour 100 000 habitants, donc on n'y est pas encore. Évidemment, ça peut grimper et donc évoluer, mais pour le moment, si vous revenez de ces zones ou si vous avez prévu de vous y rendre cette semaine, vous n'êtes aucunement concerné par cette fameuse obligation d'observer une quarantaine de 10 jours.
Les suppressions d'emplois se multiplient en Suisse depuis mars. La pandémie fait vaciller des pans entiers de l'économie. Selon un décompte de l'agence AWP, les annonces de suppression concernent environ 6000 postes en Suisse. Les militantes et militants pour le climat ont pris possession aujourd'hui de la place fédérale. Bien avant les premiers rayons du soleil, ils ont érigé des tentes et différentes structures en face du palais. Plusieurs centaines de personnes s'y sont installées et parmi leurs activités, des chants, des jeux de balles, mais aussi des réunions pour finaliser le programme de la semaine. Car les activistes ont pour ambition de rester sur place jusqu'à vendredi si la police et les autorités les laissent faire. Les activistes espèrent ainsi faire bouger les parlementaires et leur mettre un coup de pression. Les explications d'Anaïs Tilquin, membre d'Extinction Rébellion, l'une des porte-parole du mouvement.
Nous sommes le 21 septembre et c'est la dernière semaine de la session parlementaire d'automne et on compte être là et accompagner les parlementaires pendant leur dernière semaine. Donc on est là jusqu'à vendredi. Ils vont se rendre compte à quel point jusqu'à présent ils ont fait n'importe quoi. Ils vont déclarer une urgence climatique et ils vont déclarer qu'on va être neutre en carbone en 2030 dans un esprit de justice climatique. C'est exactement ce qui va se passer. Et si ça ne se passe pas comme ça, on reviendra et on fera pire jusqu'à ce que ça se passe comme ça.
En plus de cette présence devant le palais, les activistes prévoient des actions délocalisées dans des lieux stratégiques de la capitale. L'objectif, mettre en lumière différents aspects de la crise climatique. Berne met la pression sur Suisse pour le remboursement de son prêt Covid. La compagnie aérienne a bénéficié d'un crédit de 1,5 milliard de francs pour faire face à la crise sanitaire. Pour garantir le remboursement du prêt, le Conseil fédéral a fixé des objectifs à la compagnie. Elle devrait réaliser 500 millions de francs de bénéfices en 2023 et davantage l'année suivante. Suisse qui juge de tels objectifs irréalistes selon la Sonntagszeitung. Un semi-confinement est en vigueur dès aujourd'hui à Madrid. En raison de la recrudescence de coronavirus en Espagne, les autorités ont limité la liberté de mouvement d'environ 850 000 personnes. Elles ne pourront sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité comme aller travailler, aller chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école.
Midi et 24 minutes sur RTN. Tout de suite, place au sport.
Sport. Le Tour de France a sacré hier Tadej Pogacar. Le Slovène est le plus jeune vainqueur de la course depuis 1904. Le coureur de l'équipe UAE Emirates a chippé le maillot jaune à son compatriote Primoz Roglic samedi lors du contre-la-montre de la planche des belles filles. Alors que l'équipe Jumbo-Visma semblait maîtriser totalement ce Tour de France, l'équipe de Primoz Roglic a laissé s'échapper Tadej Pogacar. Notre consultant, l'ancien professionnel français Christophe Moreau, nous explique ce qui s'est passé.
Mais je crois que vous savez, la pression, hein, on en parle beaucoup, elle est énorme. On est sur le Tour de France, tout Roglic qu'il est, avec son équipe la plus forte du Tour. Cette domination, peut-être que les choses étaient quasiment faites pour lui dans sa tête. Il a un petit relâchement, peut-être des jambes un petit peu moins meilleures. Et puis, vous savez, la pression, ben voilà, ça fait faire des contre-performances. Et Pogacar en a bien profité, et même de là, plus que ça, parce qu'il a écrasé véritablement l'étape et le général.
Mais il a même écrasé Tom Dumoulin, spécialiste de contre-la-montre. L'écart avec Roglic est énorme. Ça interpelle un peu. On s'étonne toujours de ces temps stratosphériques. Est-ce qu'on peut y croire cette année à cette victoire ?
Écoutez, quand on a un garçon qui a justement 22 ans aujourd'hui, qui a fait troisième de la Vuelta en 2019, il est quand même assez légitime de croire en ses capacités saines et de son potentiel. On a vu avec une équipe plutôt affaiblie, ou en tout cas faiblissante, pas très entourée et individuellement très fort. Donc on peut-être, comme Evenepoel, comme Van Der Poel, comme Wout Van Aert, avoir Pogacar comme futur grand champion.
Des propos recueillis par Léandre Beret. La dernière étape de ce Tour de France a été remportée hier par le maillot vert Sam Bennett sur les Champs-Élysées. Et le Suisse Marc Hirschi a reçu le dossard du super combatif du Tour. Novak Djokovic à nouveau en finale des Masters 1000 de Rome de tennis. C'est la 10e fois que le Serbe atteint ce niveau dans le tournoi. Il a dominé le Norvégien Casper Ruud 7-5, 6-3 en demi-finale. Trois rencontres de Super League de football ont ouvert les feux hier de la nouvelle saison. Le derby lémanique a couronné le néo-promu Lausanne. Les Vaudois ont battu Servette 2-1. De son côté, Saint-Gall a battu Sion 1-0 et Bâle a été tenu en échec par Vaduz 2-2. C'est la fin de l'aventure européenne pour la Neuchâtel Hockey Academy. L'équipe féminine de hockey sur glace a subi deux défaites ce week-end en Autriche. Hier, les filles de Yann Gigon ont échoué en prolongation contre les Salzburg Eagles 3-2 et elles avaient déjà perdu la veille 4-2 face à Bratislava. Très belle journée à toutes et à tous.
Merci beaucoup Aude, on vous retrouve pour le journal de ce soir, ce sera à 18h sur RTN. Un point sur la météo des plages, il fait pas une météo terrible pour aller à la plage, mais déjà on va aller déjà voir le ciel. Et après une soirée orageuse, les experts de Météo News nous avaient annoncé un temps en partie ensoleillé. Pour l'instant, on cherche le soleil. Hein. Passage nuageux pour ce lundi du jeûne fédéral. Le ciel est couvert. Il y aura des averses de plus en plus durant l'après-midi. Et surtout à partir des reliefs qui vont pouvoir localement déborder en région de plaine en fin d'après-midi. Et ça va se ressentir sur le thermomètre avec une petite baisse des températures. Il ne fera que 22 degrés au meilleur de la journée à Neuchâtel, Yverdon et Payerne. 20 degrés pour Fleurier et seulement 18 degrés à la Chaux-de-Fonds et au Locle. Et cette météo va nous accompagner durant toute la semaine avec des pluies et des températures en chute d'ici vendredi.